Chapitre 15. La revanche du gobelin. Le lendemain matin de bonne heure, avant que Ron et Hermione ne soient réveillés, Harry quitta la tente pour fouiller les bois alentour, à la recherche de l'arbre le plus vieux, le plus noueux, le plus résistant qu'il puisse trouver. À l'ombre de ses branches, il enterra l'œil magique de Maugrey Folleuil et marqua l'endroit d'une petite croix qu'il creusa dans l'écorce du tronc à l'aide de sa baguette. Ce n'était pas grand-chose, mais Harry sentait que Maugrey aurait préféré savoir son œil enterré là plutôt que collé sur la porte de Dolorès Ombrage. Puis il retourna vers la tente et attendit le réveil des deux autres pour qu'ils décident ensemble de leur destination suivante. Harry et Hermione pensaient qu'il valait mieux ne pas rester trop longtemps dans le même endroit et Ron les approuva, à l'unique condition que leur prochain déplacement les amène à proximité d'un sandwich au jambon. Hermione annula les enchantements dont elle avait entouré la clairière, pendant que Harry et Ron effaçaient du sol toute marque, toute empreinte pouvant indiquer qu'ils avaient campé là. Puis, ils transplanèrent aux abords d'une petite ville. Lorsqu'ils eurent monté leur tente à l'abri d'un bosquet d'arbres et qu'ils l'eurent protégée par de nouveaux sortilèges, Harry mit sa cape d'invisibilité et partit à la recherche de nourriture. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. À peine était-il entré dans la ville qu'un froid anormal, accompagné d'une nappe de brume et d'un assombrissement soudain du ciel, le figea sur place.
« Mais tu sais faire de magnifiques patronus !» s'étonna Ron quand Harry revint à la tente, les mains vides, le souffle court et formant sur les lèvres, sans le prononcer à haute voix, le mot « détraqueur ».
« Je n'ai pas pu » haleta-t-il, une main plaquée sur son poing de côté. « Il ne voulait pas venir. »
Devant leur expression déçue, consternée, Harry eut honte. Il avait vécu un véritable cauchemar quand il avait vu les détraqueurs émerger de la brume et s'était rendu compte, dans le froid paralysant qui oppressait ses poumons et l'écho des hurlements qui retentissaient au loin, qu'il était incapable de s'en protéger. Il lui avait fallu toute la force de sa volonté pour s'arracher de cet endroit et courir vers la tente, laissant derrière lui les détraqueurs sans yeux glisser parmi les moldus qui ne pouvaient peut-être pas les voir, mais ressentaient sans nul doute le désespoir que ces créatures répandaient partout sur leur passage.
« Donc, on n'a toujours rien à manger. »«
Tais-toi, Ron !» lança sèchement Hermione.
« Harry, que s'est-il passé ? À ton avis, pourquoi n'as-tu pas pu créer un patronus ? Hier, tu y as parfaitement réussi. »
« Je ne sais pas. »
Il s'enfonça dans l'un des vieux fauteuils de Perkins, se sentant un peu plus humilié à chaque instant. Il avait peur que quelque chose se soit déréglé en lui. La journée d'hier lui paraissait très lointaine. Aujourd'hui, peut-être était-il revenu à l'âge de 13 ans, à l'époque où il avait été le seul à s'évanouir dans le Poudlard Express. Ron donna un coup de pied dans une chaise.
« Et alors quoi » grogna-t-il à l'adresse d'Hermione. « Je meurs de faim. Tout ce que j'ai mangé depuis que j'ai failli être saigné à mort, c'est 200 pignons. »«
Dans ce cas, vas-y toi-même et débrouille-toi avec les détraqueurs, » répliqua Harry, piqué au vif.
« Je voudrais bien, mais j'ai le bras en écharpe, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. C'est bien pratique.
Qu'est-ce que tu veux dire par... »
« Bien sûr !» s'écria soudain Hermione en se frappant le front. Surpris, les deux autres se turent.
« Harry, donne-moi le médaillon. Vite !»
dit-elle avec impatience. Voyant qu'il ne réagissait pas, elle claqua des doigts vers lui.
« L'horcrux, Harry, tu l'as toujours sur toi !»
Elle tendit la main et Harry ôta la chaîne d'or de son cou. Dès l'instant où le médaillon cessa d'être à son contact, il ressentit une impression de liberté et d'étrange légèreté. Il ne prit conscience de la moiteur de sa peau et du poids qui lui avait pesé sur l'estomac qu'au moment où ces deux sensations eurent soudain disparu.
« Ça va mieux ?»
demanda Hermione.
« Ah oui, beaucoup mieux. »«
Harry »
dit-elle. Elle s'accroupit devant lui et parla d'une voix qu'on réserve d'habitude aux gens gravement malades.
« Tu ne penses pas être possédé, n'est-ce pas ?»«
Quoi ?»
« Non !»
répondit-il sur la défensive.
« Je me souviens de tout ce que nous avons fait pendant que je le portais autour du cou. Si j'étais possédé, je n'aurais plus conscience de mes actes, non ?
Ginny m'a raconté qu'il y avait des moments où elle ne se souvenait de rien.
Marmonna Hermione en contemplant le lourd médaillon.
Il vaudrait peut-être mieux ne pas l'avoir sur soi. Nous n'avons qu'à le ranger dans la tente.
Pas question de laisser traîner cet horcrux, déclara Harry d'un ton ferme. Si nous le perdons, si on nous le vole.
D'accord, d'accord, admit Hermione.
Elle le passa alors autour de son propre cou et le cacha sous son chemisier.
Mais nous le porterons à tour de rôle pour que personne ne le garde trop longtemps sur soi.
Bah, c'est parfait, commenta Ron d'un ton irrité. Et maintenant que nous avons réglé cette question, est-ce qu'on pourrait s'occuper de trouver quelque chose à manger, s'il vous plaît?
Bien sûr, mais on ira chercher ailleurs,
dit Hermione en lançant un vague coup d'œil à Harry.
Il ne sert à rien de s'attarder dans un endroit sillonné par des détraqueurs.
Ils finirent par s'installer pour la nuit dans un champ lointain qui appartenait à une ferme isolée où ils purent se procurer des œufs et du pain.
« Ce n'est pas du vol, hein ?»
demanda Hermione, anxieuse, tandis qu'il dévorait des œufs brouillés sur toast.
« Puisque j'ai laissé de l'argent à côté du poulailler. »
Ron leva les yeux au ciel et répondit, les joues pleines.
« Hermione, t'es toujours trop inquiète. » Il est en soin, hein.
Et en effet, il leur fut beaucoup plus facile de se détendre après avoir bien mangé. Ce soir-là, la dispute autour des détraqueurs s'oublia dans les rires, et Harry se sentit joyeux, optimiste même, lorsqu'il prit le premier des trois tours de garde. Pour la première fois, il se rendait compte que rien ne vaut un ventre bien rempli pour être de bonne humeur, alors qu'un estomac vide rend querelleur et maussade. Harry ne fut pas le plus surpris des trois, car il avait dû endurer de longues périodes de quasi-famine chez les Dursley. Hermione avait supporté raisonnablement les soirées où il ne parvenait à rapporter que quelques baies et des biscuits rassis. Son caractère devenait toutefois un peu plus abrupt, ses silences plus butés. Ron, en revanche, avait toujours bénéficié de trois délicieux repas par jour, assurés par sa mère ou par les elfes de maison de Poudlard, et la faim le rendait déraisonnable et irascible. Chaque fois que le manque de nourriture coïncidait avec le moment où son tour était venu de porter l'horcrux, il se révélait franchement désagréable.
« Où va-t-on maintenant ?» était devenu son refrain habituel.
Lui-même ne semblait pas avoir d'idée, il attendait simplement que Harry et Hermione proposent quelque chose pendant qu'ils restaient assis à se morfondre devant l'insuffisance de leurs provisions. De leur côté, Harry et Hermione passaient des heures stériles à essayer de déterminer les endroits où ils pourraient trouver les autres horcrux et à chercher un moyen de détruire celui qu'ils possédaient déjà, leur conversation devenant de plus en plus répétitive en l'absence d'informations nouvelles.
Comme Dumbledore avait dit à Harry qu'à son avis Voldemort avait caché les horcrux dans des endroits importants pour lui, il ne cessait, en une sorte de terrible litanie, de réciter la liste des lieux où le Seigneur des Ténèbres avait vécu ou qu'il avait visité. L'orphelinat dans lequel il était né et avait été élevé, Poudlard, où il avait fait ses études, Barjo et Burke, où il avait travaillé à sa sortie de l'école, puis l'Albanie, où il avait passé ses années d'exil. Ces divers éléments formaient la base de leur spéculation.
C'est ça, on n'a qu'à aller en Albanie, hein. Il ne nous faudra pas plus d'un après-midi pour fouiller le pays, lança Ron sarcastique.
Il ne peut rien y avoir là-bas. Il avait déjà fabriqué ses horcruxes avant de s'exiler, et Dumbledore était certain que le serpent est le sixième, répondit Hermione. Or, nous savons que le serpent ne se trouve pas en Albanie. Il quitte rarement...
Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne prononce pas! Ne prononce pas son nom!
D'accord, d'accord. Le serpent quitte rarement tu sais qui. Tu es content comme ça?
Pas spécialement.
Je ne vois pas cacher quoi que ce soit chez Barjo et Burke, reprit Harry. Il avait souvent souligné ce point, mais il se répéta une fois de plus pour briser le silence déplaisant qui s'était installé.
Barjo et Burke étaient experts en objets de magie noire. Ils auraient tout de suite reconnu un horcrux.
Ron bâilla volontairement. Réprimant une forte envie de lui jeter quelque chose à la figure, Harry poursuivit laborieusement.
« Je crois toujours qu'il aurait pu cacher quelque chose à Poudlard. »
Hermione soupira.
Dumbledore l'aurait trouvé, Harry. »
Il exposa à nouveau l'argument en faveur de cette hypothèse.
« Dumbledore a dit devant moi qu'il n'avait jamais eu la prétention de connaître tous les secrets de Poudlard. Je vous le répète, s'il y a un endroit que vole... »«
Hé ! Tu sais qui, d'accord ?» s'écria Harry, excédé. « S'il y avait un endroit important pour tu sais qui, c'était bien Poudlard. »«
Arrête !» répliqua Ron d'un ton moqueur. « Son école ?»«
Ouais, son école. Elle a été sa première maison. » L'endroit qui a fait de lui un être à part. Elle signifiait tout à ses yeux, et même après l'avoir quitté.
C'est bien de tu sais qui qu'on parle, hein ? Pas de toi, interrogea Ron.
Il tirait la chaîne de l'horcrux passée autour de son cou, et Harry éprouva le désir de s'en servir pour l'étrangler.
Tu nous as raconté que tu sais qui avait demandé à Dumbledore de lui confier un poste d'enseignant après son départ, dit Hermione.
Exact, confirma Harry.
Et Dumbledore pensait qu'il voulait revenir simplement pour essayer de trouver quelque chose, sans doute un autre objet ayant appartenu à l'un des fondateurs afin de le transformer en horcrux.
Oui.
Mais il n'a pas obtenu ce poste, n'est-ce pas ? Poursuivit Hermione. Il n'a donc jamais eu l'occasion de s'emparer d'un tel objet et de le cacher dans l'école.
Très bien, d'accord, admit Harry, t'as gagné. Oublions Poudlard.
Sans autre piste à suivre, ils se rendirent à Londres et, cachés sous la cape d'invisibilité, cherchèrent l'orphelinat dans lequel Voldemort avait été élevé. Et Hermione se faufila dans une bibliothèque et découvrit dans les archives que l'endroit avait été démoli de nombreuses années auparavant. Quand ils allèrent sur place, ils se retrouvèrent devant une tour de bureau.
« On pourrait peut-être essayer de creuser dans les fondations ?»
suggéra Hermione sans grande conviction.
« Ce n'est pas là qu'il aurait caché un horcrux, » répondit Harry.
Il le savait depuis le début. L'orphelinat était le lieu dont Voldemort avait résolu de s'enfuir. Jamais il n'y aurait dissimulé une partie de son âme.
Dumbledore avait expliqué à Harry que Voldemort cherchait dans ses cachettes une certaine grandeur ou une puissance mystique. Ce sinistre coin grisâtre de Londres était aussi éloigné que possible du château de Poudlard, du ministère de la magie ou d'un édifice comme Gringotts, la banque des sorciers avec ses portes d'or et ses sols de marbre. Même dépourvus de nouvelles idées, ils continuèrent de parcourir la campagne, plantant la tente dans un endroit différent chaque soir pour des raisons de sécurité. Au matin, ils s'assuraient de ne laisser derrière eux aucun indice pouvant trahir leur présence, puis partaient en quête d'un autre lieu retiré et solitaire, transplanant vers des forêts, des crevasses obscures au flanc des falaises, des landes pourpres, des montagnes aux pentes couvertes d'ajoncs, et même, un jour, la plage de galets d'une crique abritée. Toutes les 12 heures environ, ils se passaient leur crux, comme dans une version dénaturée au ralenti d'un jeu de furet où ils redoutaient que la chanson s'arrête car le prix à payer s'élevait à 12 heures d'angoisse et de peur. Harry continuait de ressentir des picotements dans sa cicatrice. Il remarqua que le phénomène se produisait plus souvent lorsque c'était lui qui portait leur crux. Parfois, il ne pouvait s'empêcher de réagir à la douleur.
« Quoi ? Qu'est-ce que t'as vu ?» demanda Ron lorsqu'il voyait Harry grimacer.
« Un visage, » marmonnait celui-ci à chaque fois. « Toujours le même, celui du voleur de Grégorovitch. »
Ron détournait alors la tête sans chercher à dissimuler sa déception. Harry savait qu'il espérait avoir des nouvelles de sa famille ou des autres membres de l'Ordre du Phénix, mais après tout, il n'était pas une antenne de télévision. Il pouvait seulement voir ce que pensait Voldemort à un moment donné et non pas à se brancher sur ce qu'il souhaitait au gré de sa fantaisie. Apparemment, Voldemort n'avait plus en tête que le jeune inconnu au visage réjoui dont Harry était sûr que le Seigneur des Ténèbres ignorait tout autant que lui le nom et le lieu de résidence. Tandis que sa cicatrice continuait de le brûler et que le joyeux jeune homme aux cheveux blonds flottait dans sa mémoire, telle une image inaccessible, Harry apprit à dissimuler tout signe de douleur ou de malaise. Les deux autres, en effet, s'irritaient d'entendre toujours parler du voleur. Harry ne pouvait entièrement les en blâmer en un moment où il cherchait si désespérément une piste qui puisse les mener aux horcruxes.
À mesure que les jours s'étiraient en semaines, il commença à soupçonner Ron et Hermione d'avoir des conversations sans lui et sur lui. Plusieurs fois, ils s'interrompirent brusquement en le voyant entrer dans la tente et à deux reprises, il les surprit par hasard à quelque distance, leurs têtes penchées l'une contre l'autre, en train de parler précipitamment. Les deux fois, ils se turent à son approche et firent semblant de s'affairer à ramasser du bois ou à remplir un seau d'eau. Il ne put s'empêcher de se demander s'ils avaient accepté de l'accompagner dans ce qui apparaissait à présent comme un voyage futile et incohérent, uniquement parce qu'ils avaient cru tout d'abord que Harry avait un plan secret dont ils apprendraient les détails en cours de route. Ron ne faisait aucun effort pour dissimuler sa mauvaise humeur, et Harry avait peur qu'Hermione, elle aussi, soit déçue par son incapacité à diriger les opérations. Dans une tentative désespérée, il essaya de penser à d'autres lieux où pourraient se trouver les Horcruxes, mais le seul qui lui revenait régulièrement en tête était Poudlard. Et comme cette hypothèse paraissait improbable aux deux autres, il cessa d'en parler. L'automne s'installait dans la campagne qu'il ne cessait de parcourir. Ils montaient à présent leur tente sur des couches de feuilles mortes et des brumes naturelles s'ajoutaient à celles répandues par les détraqueurs. La pluie et le vent aggravaient leurs soucis. Le fait qu'Hermione ait appris à mieux identifier les champignons comestibles ne pouvait suffire à compenser leur isolement continu, le manque de compagnie ou leur totale ignorance de ce qui se passait dans la guerre contre Voldemort. « Et ma mère, » dit Ron un soir où il s'était installé dans la tente sur la berge d'une rivière galloise, « est capable de faire survivre dans les vers de délicieux petits plats. » L'air morose, il piqua sa fourchette dans les morceaux de poisson grisâtre et carbonisé rassemblés dans son assiette. Harry jeta machinalement un regard en direction de son cou et vit briller, comme il s'y était attendu, la chaîne d'or de l'Horcrux. Il parvint à réfréner l'envie d'insulter Ron, dont l'attitude, il le savait, s'améliorerait légèrement quand le moment serait venu pour lui d'enlever le médaillon. « Ta mère ne peut pas faire surgir de la nourriture du néant, » répliqua Hermione. « Personne ne le peut. La nourriture est la première des exceptions principales à la loi de Gamp sur la métamorphose élémentaire.
Tu peux pas parler normalement, » l'interrompit Ron en arrachant une arête d'entre ses dents.
« Il est impossible de faire apparaître de bons petits plats à partir de rien. On peut utiliser un sortilège d'attraction si on sait où ils se trouvent. On peut les modifier. » On peut en accroître la quantité si on en a déjà.
Surtout ne te donne pas la peine d'accroître la quantité de ce truc-là, c'est dégoûtant, coupa Ron.
Harry a pêché le poisson et j'ai fait ce que j'ai pu pour le préparer. Je constate que c'est toujours moi qui finis par m'occuper de la cuisine, sans doute parce que je suis une fille.
Oh non, c'est parce que tu es censée être la meilleure en ma vie, rétorqua Ron.
Hermione se leva d'un bond et des morceaux de brochet rôti glissèrent de son assiette en étain, tombant sur le sol.
Demain, c'est toi qui t'occuperas de la cuisine, Ron. C'est toi qui te procureras les ingrédients et c'est toi qui trouveras les formules magiques pour les transformer en quelque chose de mangeable. Moi, je resterai assise à ronchonner en faisant des grimaces et tu verras comment tu...
Silence !
Trancha Harry en se levant à son tour, les deux mains tendues devant lui.
Plus un mot !
Hermione parut scandalisée.
Comment peux-tu prendre son parti ? Il ne fait pratiquement jamais la cuisine !
Hermione, tais-toi ! J'entends quelqu'un !
Il tendit l'oreille, les mains toujours levées, pour les empêcher de parler. Mêlé au bruit de la rivière, dont les eaux sombres bouillonnaient et clapotaient à côté d'eux, il entendit à nouveau des voix. Il jeta un coup d'œil au scrutoscope. Il ne bougeait pas.
« Tu as jeté la surdiato !» murmura-t-il à Hermione. « J'ai fait tout ce qu'il fallait !» chuchota-t-elle. « La surdiato, repousse Moldu et sortilège de désillusion. Tout, quel qu'il soit, il ne devrait ni nous entendre, ni nous voir. » Des grattements, des raclements, auxquels s'ajoutaient des bruits de pierres ou de branchages remués, leur indiquèrent que plusieurs personnes descendaient la pente boisée et escarpée qui menait vers la berge étroite où ils avaient planté leur tente. Ils sortirent leurs baguettes, attendant. Les sortilèges qu'ils avaient jetés autour d'eux auraient dû suffire, dans l'obscurité quasi totale, à les dissimuler aux yeux de moldus ou de sorciers normaux. Mais s'il s'agissait de mange-mort, leur défense allait peut-être subir pour la première fois l'épreuve de la magie noire.
À mesure que les nouveaux venus avançaient vers la rive, leur voix devenait plus sonore, mais pas plus intelligible. Harry estima que le groupe devait se trouver à 5 ou 6 mètres, mais avec le bruit de cascade de la rivière, il était impossible d'en être sûr. Hermione attrapa le sac en perles et fouilla dedans. Au bout d'un certain temps, elle en retira 3 oreilles à rallonge et en jeta 2 à Harry et à Ron, qui enfoncèrent aussitôt dans leurs propres oreilles l'extrémité de la ficelle couleur chair dont ils déroulèrent l'autre bout à l'entrée de la tente. Quelques secondes plus tard, Harry entendit une voix d'homme au ton là.
« Oh, il devrait y avoir des saumons ici. Ou tu crois que c'est trop tôt dans la saison ? Attention saumon !»
Il y eut des clapotements caractéristiques, puis les claquements d'un poisson qui se débattait entre les mains de l'homme. Quelqu'un poussa un grognement appréciateur. Harry enfonça plus profondément l'oreille à rallonge dans la sienne. Par-dessus le murmure de la rivière, il percevait d'autres voix, mais elles ne parlaient pas anglais ni aucune autre langue humaine qu'il eût jamais entendue. C'était un langage rude, dissonant, une suite de sons gutturaux grinçants. Apparemment, il y avait 2 personnes qui s'exprimaient ainsi, dont l'une avait une voix plus basse, plus lente que l'autre. Des flammes jaillirent et dansèrent de l'autre côté de la toile. De grandes ombres passaient entre le feu et la tente. Un délicieux fumet de saumon braisé flotta jusqu'à eux, tentateur. Puis, ils entendirent des cliquetis de couverts et d'assiettes, et le premier homme parla à nouveau.
Ah, « Tenez, Gripsec, Gornuc !»«
Des gobelins !»
dit Hermione, en formant silencieusement le mot sur ses lèvres. Harry approuva d'un signe de tête.
« Merci !»
répondirent ensemble les 2 gobelins, en anglais.
« Alors, il y a combien de temps que vous êtes en fuite, tous les 3 ?»
demanda une nouvelle voix mélodieuse et agréable à l'oreille. Elle était vaguement familière à Harry, qui imagina un homme au visage jovial et au ventre rebondi.
« Oh, 6 semaines, 7 peut-être, j'ai oublié !»
répondit l'homme au ton là.
« J'ai rencontré Gripsec au bout de 2 jours et Gornuc s'est joint à nous quelque temps plus tard. Ça fait du bien d'avoir un peu de compagnie. »
Il y eut une pause pendant laquelle on les entendit racler leurs couteaux contre les assiettes, puis prendre et reposer des chopes d'étain.
« Et toi, qu'est-ce qui t'a décidé à partir, Ted ?»
reprit l'homme.
« Je savais qu'il venait me chercher, » répondit la voix mélodieuse du dénommé Ted.
Et Harry le reconnut soudain. C'était le père de Tonk.
« La semaine dernière, j'ai entendu dire qu'il y avait des mange-morts dans le coin et j'ai décidé qu'il valait mieux m'enfuir. J'avais refusé de me faire enregistrer comme des moldus, par principe, tu comprends. Je savais donc que ce n'était plus qu'une question de temps. Ah, finalement, j'aurais été obligé de partir. Ma femme ne devrait pas avoir de problème. Elle est de sang pur. Ensuite, j'ai rencontré Dean. C'était quand, fiston, il y a quelques jours, non ?
Ouais, répondit une autre voix. Harry, Ron et Hermione échangèrent un regard. Ils restèrent silencieux, mais ils avaient du mal à contenir leur fébrilité, car ils étaient sûrs d'avoir reconnu la voix de Dean Thomas, leur condisciple de Gryffondor.
« Tu es né moldu, hein ?»
demanda le premier homme.
« Pas sûr, » répliqua Dean. « Mon père a quitté ma mère quand j'étais enfant, mais je n'ai aucune preuve que c'était un sorcier. »
Pendant un moment, le silence ne fut troublé que par des bruits de mastication. Puis Ted parla à nouveau.
« Je dois dire, Dirk, que je suis surpris de tomber sur toi. Content, mais surpris. La rumeur courait que tu avais été arrêté. »«
Ah, c'est vrai !» répondit Dirk. « Mais à mi-chemin d'Azkaban, je me suis enfui. J'ai stupéfixé Drolich et je lui ai volé son balai. C'était plus facile qu'on l'aurait cru. Je crois qu'il n'était pas en très bonne forme ces temps-ci. » Et il a peut-être subi un sortilège de confusion. Si c'est le cas, j'aimerais bien serrer la main du sorcier ou de la sorcière qui lui a jeté le sort. Ça m'a sans doute sauvé la vie.
Il y eut une nouvelle pause. Le feu crépitait. L'eau de la rivière bouillonnait. Enfin, Ted reprit.
Et vous deux, comment vous vous situez? J'avais l'impression que dans l'ensemble, les gobelins étaient... partisan de vous savez qui.
« Oh, c'était une fausse impression !»
répliqua le gobelin à la voix plus aiguë que l'autre.
« Nous ne prenons pas parti. C'est une guerre entre sorciers. »
« Dans ce cas, pourquoi vous cachez-vous ? »
« J'ai estimé que c'était plus prudent, »
répondit le gobelin à la voix grave,
ayant refusé de me soumettre à une exigence que je jugeais impudente. Je voyais bien que ma sécurité personnelle était menacée.
« Que vous ont-ils demandé ?» interrogea Ted.
« Et d'accomplir des tâches incompatibles avec la dignité de mon espèce, »
répondit le gobelin, la voix plus rude et moins humaine.
« Je ne suis pas un elfe de maison. »«
Et vous, Gripsek ?»«
Même raison, »
dit le gobelin à la voix aiguë.
« Gringotts n'est plus sous le seul contrôle de mes semblables et je ne reconnais aucun maître parmi les sorciers. »
Dans un murmure, il ajouta quelque chose en gobelbabil, et Gornuk éclata de rire.
« C'était quoi la blague, là ?» demanda Dean.
« Il a dit, expliqua Dirk, et qu'il y a aussi des choses que les sorciers ne reconnaissent pas. »
Il y eut un bref silence.
« Je comprends pas l'astuce, » avoua Dean.
« J'ai eu ma petite revanche avant de partir, »
reprit Grispek en anglais.
« Bravo, bonhomme !» approuva Ted.
Bon gobelin, devrais-je dire,
rectifia-t-il aussitôt. Vous n'avez quand même pas réussi à enfermer un mange-mort dans l'une de vos vieilles chambres fortes inviolables.
Si c'était le cas, l'épée ne l'aurait pas aidé à forcer la porte,
répondit Gripsek. Gornuk s'esclaffa à nouveau et Dirk lui-même eut un petit rire sec.
Encore quelque chose qui nous a échappé à dîner à moi, dit Ted.
« Il y a quelque chose qui a échappé à Severus Rogue, mais il ne le sait pas encore !»
reprit Gripsek. Les deux gobelins éclatèrent d'un grand rire féroce.
À l'intérieur de la tente, l'excitation de Harry devint telle qu'il avait du mal à respirer.
Ils se regardèrent avec Hermione tendant l'oreille pour ne pas perdre le moindre mot.
« Tu n'as pas entendu parler de ça, Ted ?»
demanda Dirk.
« Les mômes qui ont essayé de voler l'épée de Gryffondor dans le bureau de Rogue, à Poudlard !»
Figé sur place, Harry eut l'impression que chaque nerf de son corps était parcouru d'un courant électrique.
« J'avais rien su, »
dit Ted.
« Ils n'en ont pas parlé dans la gazette ?»«
Ça m'étonnerait, »
répondit Dirk en gloussant de rire.
« C'est Gripsek qui me l'a raconté. Il l'a entendu dire par Bill Wesley, qui travaille pour la banque. L'un des mômes qui ont essayé de voler l'épée était la jeune sœur de Bill. »
Harry jeta un coup d'œil à Hermione et à Ron, qui s'accrochaient tous deux à leurs oreilles à rallonge, comme s'il s'était agi d'un filin de sécurité.
« Elle et deux autres amis se sont introduits dans le bureau de Rogue et ont fracassé la vitrine dans laquelle ils gardaient l'épée. Rogue les a surpris au moment où ils essayaient de s'enfuir dans l'escalier.
« Dieu les bénisse !» dit Ted. « Pensait-il pouvoir se servir de l'épée contre vous savez qui ? Ou contre Rogue lui-même ?»
« Ah, je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête, mais en tout cas, Rogue a estimé que l'épée n'était plus en sécurité là où elle était, »
poursuivit Dirk.
« Deux jours plus tard, sur l'ordre de vous savez qui, j'imagine, il a envoyé l'épée à Londres pour qu'elle soit conservée à Gringotts. »
Les gobelins recommencèrent à rire.
« Je ne vois toujours pas ce qu'il y a de drôle, » remarqua Ted.
« C'est un faux !»
répondit Gripsek d'une voix râpeuse.
« L'épée de Gryffondor ?»«
Oui, c'est une copie. une excellente copie. Il est vrai, mais fabriquée par des sorciers. La vraie a été forgée il y a des siècles par des gobelins et elle était dotée de certaines propriétés que seules les armes produites par les gobelins possèdent. J'ignore où se trouve la véritable épée de Gryffondor, mais ce n'est sûrement pas dans un coffre de Gringotts.
« Ah, je comprends, » dit Ted. « Et bien entendu, vous ne vous êtes pas donné la peine d'en informer les mange-morts. »«
Je ne voyais aucune raison de les importuner avec ce genre de détails, »
répondit Gripsek d'un ton suffisant. Cette fois, Ted et Dean joignirent leurs éclats de rire à ceux de Gornuk et de Dirk. Dans la tente, Harry ferma les yeux. Il souhaitait ardemment que quelqu'un pose la question si importante pour lui. Et au bout d'une minute qui lui parut 10 fois plus longue, ce fut Dean qui exauça son vœu. Lui aussi, Harry tressaillit à se souvenir, avait été le petit ami de Ginny.
Qu'est-ce qui est arrivé à Ginny et aux autres, ceux qui ont essayé de voler l'épée?
Oh, ils ont été punis, et cruellement,
répondit Gripsec d'un ton indifférent.
C'est pas trop sérieux, j'espère,
demanda précipitamment Ted.
Les Wesley n'ont vraiment pas besoin qu'un autre de leurs enfants soit blessé.
Autant que je le sache, ils n'ont rien subi de grave, assura Gripsec.
Une chance pour eux, remarqua Ted. Avec les antécédents de Rogue, on peut s'estimer heureux qu'il soit toujours vivant. Alors toi aussi, tu crois cette histoire, Ted ?
Interrogea Dirk.
Tu penses que Rogue a tué Dumbledore ?
Eh, bien sûr que oui, répliqua Ted. Tu ne vas quand même pas m'affirmer tranquillement que Potter a quelque chose à voir là-dedans.
Oh, on ne sait plus que croire ces temps-ci,
marmonna Dirk.
Je connais Harry Potter, intervint Dean. Et à mon avis, il mérite sa réputation. C'est bien lui l'élu, ou quel que soit le nom qu'on lui donne.
Ouais, il y a plein de gens qui aimeraient bien en être persuadés, fiston,
répliqua Dirk.
Moi y compris. Mais où est-il? Apparemment, il a pris la fuite. S'il avait quelque chose qu'on ignore, ou s'il était quelqu'un d'exceptionnel, on pourrait penser qu'il serait là à se battre, à organiser la résistance, au lieu de se cacher. Et tu sais, la Gazette a publié des articles assez convaincants contre lui.
La Gazette ? L'interrompit Ted avec mépris.
Ah, tu mérites bien qu'on te raconte des mensonges si tu continues à lire cette flaque de boue, Dirk.
Si tu veux les faits, essaye le chicaneur.
Il y eut une soudaine explosion de toux et de hoquets, suivie de grands coups sourds. Apparemment, Dirk avait avalé une arête. Il parvint enfin à balbutier.
Le chicaneur! Le torchon délirant de Xeno Lovegood!
Il n'est pas si délirant que ça, ces temps-ci, dit Ted. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Xeno publie tout ce que la Gazette passe sous silence. Et il ne parle pas une seule fois du ronflet cornu dans le dernier numéro. Combien de temps le laisseront-ils faire, ça je n'en sais rien. Mais Xeno affirme à la une de chaque numéro que tous les sorciers, opposés à vous savez qui, devraient avoir pour priorité d'apporter leur soutien à Harry Potter.
Eh ben, pas facile d'aider quelqu'un qui a disparu de la surface de la Terre,
fit remarquer Dirk.
Écoute, le simple fait qu'il n'ait pas encore réussi à le capturer est déjà un sacré exploit, poursuivit Ted. J'aimerais bien en prendre de la graine. Qu'est-ce qu'on cherche tous à faire? Rester libre, non?
Ouais, c'est vrai. Sur ce point, t'as raison,
reconnut Dirk d'un ton lourd.
Avec le ministère et tous ses informateurs à ses trousses, je m'attendais à ce qu'il soit en prison à l'heure qu'il est. Mais finalement, qui peut assurer qu'ils ne l'ont pas déjà arrêté et exécuté sans l'avoir annoncé?
Oh, ne dis pas ça, Dirk, murmura Ted.
Pendant la longue pause qui suivit, on entendit de nouveaux bruits de couverts entrechoqués. Lorsque la conversation reprit, ce fut pour décider s'il ferait mieux de dormir sur la berge ou de remonter le flanc boisé de la colline. Estimant que les arbres leur offriraient un meilleur abri, ils éteignirent leur feu et gravirent la pente, leur voix s'évanouissant au loin. Harry, Ron et Hermione enroulèrent les oreilles à rallonge. Harry, qui avait éprouvé de plus en plus de difficultés à demeurer silencieux à mesure qu'il les entendait parler, fut incapable de dire autre chose que
« Ginny, l'épée !»«
Je sais !»
s'exclama soudain Hermione. Elle se roua sur le sac en perles et y plongea cette fois le bras tout entier.
« ça y est, le voilà !»
dit-elle entre ses dents serrées. Elle tira quelque chose qui se trouvait dans les profondeurs. Lentement, le coin d'un cadre ouvragé apparut. Harry se précipita pour l'aider. Tout en hissant hors du sac le portrait vide de Phineas Nigellus, Hermione gardait sa baguette pointée dessus, prête à jeter un sort à tout instant.
« Si quelqu'un a échangé la véritable épée contre sa copie pendant qu'il était dans le bureau de Dumbledore, » dit-elle d'une voix essoufflée, tandis qu'il posait le tableau debout contre la toile de la tente, « Phineas Nigellus l'aurait vu. Il était accroché juste à côté de la vitrine. »
« À moins qu'il n'ait été endormi, » objecta Harry. Mais il retint quand même son souffle lorsque Hermione s'agenouilla devant la toile vide, sa baguette dirigée en son centre, et dit, après s'être éclairci la gorge,
« Phineas ? Phineas Nigellus ?»
Il ne se passa rien.
« Phineas Nigellus ?»
répéta Hermione.
« Professeur Black ? Pourrions-nous vous parler, s'il vous plaît ?»
S'il vous plaît, est toujours utile, répondit une voix froide et narquoise. Phineas Nigellus se glissa alors dans son tableau. Hermione s'écria aussitôt « Obscuro !» Un bandeau noir apparut soudain sur les yeux sombres et vifs de Phineas Nigellus, qui se cogna contre le bord du cadre et poussa un cri de douleur.
« Ah oh, c'est ma gueule. Mais comment comment osez-vous? Mais qu'est-ce que vous ?»«
Je suis vraiment désolé, professeur Black, » s'excusa Hermione, « mais c'est une précaution indispensable. »
« Hôtez immédiatement, c'est à vous détestable. Hôtez-le, vous dis-je, vous êtes en train de détruire une grande œuvre d'art. Oh, où suis-je? Mais que se passe-t-il ?»«
Peu importe où nous sommes, » répondit Harry. Phineas Nigellus s'immobilisa, abandonnant toute tentative d'effacer le bandeau peint.
« Est-il possible qu'il s'agisse de la voix de l'insaisissable Mr. Potter ?»«
Peut-être bien, » admit Harry, sachant qu'il éveillerait ainsi l'intérêt de Phineas Nigellus. « Nous avons deux ou trois questions à vous poser au sujet de l'épée de Gryffondor. »
« Ah, ça c'est... »
dit Phineas, qui tournait la tête dans tous les sens pour s'efforcer d'apercevoir Harry.
« Oh oui, cette petite sotte a agi d'une manière bien imprudente. Ne parlez pas comme ça de ma sœur !»
s'assurgea Ron d'un ton abrupt. Phineas Nigellus haussa les sourcils dédaigneux.
« À qui d'autre se trouve ici ?»
demanda-t-il, tournant à nouveau la tête de tous côtés.
« Votre ton me déplaît. Cette jeune fille et ses amis se sont conduits avec une extrême témérité. Voler le directeur !»«
Il ne volait pas, » répliqua Harry. « L'épée n'appartient pas à Rogue. »«
Elle appartient à l'école du professeur Rogue !»
déclara Phineas Nigellus.
« Pourriez-vous me dire exactement quel droit cette fille Wesley peut avoir sur cet objet? Elle a mérité sa punition, ainsi que cet idiot de Londubat et cette grotesque petite Lovegood. »
« Neville n'est pas un idiot et Luna n'est pas grotesque !» protesta Hermione.
« Oh, mais... où suis-je ?»
répéta Phineas Nigellus, qui recommençait à se débattre avec son bandeau.
« Où m'avez-vous amené? Pourquoi m'avez-vous enlevé de la maison de mes ancêtres ?»«
Peu importe. Quelle punition Rogue a-t-il infligée à Ginny, Neville et Luna ?» demanda Harry d'un ton pressant.
« Oh, et le professeur Rogue les a envoyés dans la forêt interdite, accomplir quelques tâches pour ce gros balourd de Hagrid.
Hagrid n'est pas un gros balourd,
s'écria Hermione d'une voix perçante. Rogue a peut-être pensé que c'était une punition, dit Harry, mais Ginny, Neville et Luna ont dû bien s'amuser avec Hagrid. La forêt interdite, ils ont vu pire. Ça n'est pas grand-chose. Il se sentit soulagé. Il avait imaginé des horreurs, le sortilège de Loris, au minimum.
« Ce que nous voulons vraiment savoir, professeur Black, c'est si quelqu'un d'autre a un jour pris l'épée, peut-être pour la nettoyer ou autre chose. »
Phineas interrompit à nouveau ses efforts pour se débarrasser du bandeau et ricana.
« Ça, c'est trop drôle, ça. Ah, les nez moldus !» répliqua-t-il. « Les armes et armures fabriquées par les gobelins n'ont pas besoin d'être nettoyées, petite simplette. L'argent des gobelins repousse la vulgaire saleté et n'absorbe que ce qui le renforce. »«
Ne traitez pas Hermione de simplette !» protesta Harry.
« Oh, je commence à me lasser d'être sans cesse contredit, » déclara Phineas Nigellus. « Peut-être est-il temps pour moi de retourner dans le bureau de directeur. »
Les yeux toujours bandés, il tâtonna le bord de son cadre, essayant de sortir du tableau et de revenir dans celui de Poudlard à l'aveuglette. Harry eut une inspiration soudaine. « Dumbledore, vous pouvez faire venir Dumbledore ?»«
Ah, je vous demande pardon, »
s'étonna Phineas Nigellus. « Le portrait du professeur Dumbledore, ne pourriez-vous pas l'amener dans le vôtre ?» Phineas tourna la tête dans la direction d'où lui parvenait la voix de Harry.
« De toute évidence, il n'y a pas que les nez moldus qui sont ignorants. Potter, Les portraits de Poudlard peuvent aller d'un tableau à l'autre, mais il leur est impossible de voyager hors du château, sauf pour se rendre dans une autre peinture qui les représente ailleurs. Dumbledore ne peut pas venir ici avec moi, et après le traitement que j'ai dû subir entre vos mains, je puis vous assurer que je ne renouvellerai pas ma visite. »
Légèrement dépité, Harry regarda Phineas redoubler d'efforts pour quitter son cadre.
« Professeur Black, » reprit Hermione, « ne pourriez-vous pas simplement nous préciser, s'il vous plaît, à quel moment l'épée a quitté sa vitrine pour la dernière fois, je veux dire avant que Ginny la prenne ?»
Phineas eut un petit grognement d'impatience.
« Oh, je crois que la dernière fois que j'ai vu l'épée de Gryffondor sortir de sa vitrine, c'est quand le professeur Dumbledore s'en est servi pour fendre une bague. »
Hermione se retourna soudain vers Harry. Il ne voulait pas en dire plus devant Phineas Nigellus, qui avait enfin réussi à trouver la sortie.
« Je vous souhaite la bonne nuit !» lança-t-il d'un ton un peu aigre.
À nouveau, il commença à disparaître. On ne voyait plus que le bord de son chapeau, lorsque Harry poussa un cri soudain.
« Attendez ! Avez-vous raconté à Rogue ce que vous aviez vu ?»
Le visage aux yeux bandés de Phineas réapparut à l'intérieur du cadre.
« Le professeur Rogue a bien d'autres soucis en tête que les nombreuses excentricités d'Albus Dumbledore. Adieu, Potter !»
Cette fois, il s'effaça complètement, ne laissant derrière lui que la toile de fond d'un brin terreux.
« Harry !» s'écria Hermione. « Je sais !» s'exclama Harry.
Incapable de se dominer, il donna un coup de poing dans le vide. Il n'aurait jamais osé en espérer tant. Il marcha de long en large sous la tente avec un tel entrain qu'il aurait volontiers couru 2 kilomètres.
Il n'avait même plus faim.
Hermione fourra à nouveau le portrait de Phineas Nigellus dans le sac en perles. Lorsqu'elle l'eut refermé, elle le jeta un peu plus loin et leva vers Harry un visage rayonnant.
L'épée peut détruire les Horcruxes. Les lames fabriquées par les gobelins n'absorbent que ce qui les renforce. Harry, cette épée est imprégnée de venin de basilic. Et Dumbledore ne me l'a pas donnée lui-même parce qu'il en avait encore besoin. Il voulait l'utiliser pour le médaillon. Et il a dû prévoir qu'ils ne te laisseront pas la prendre s'il te la léguait par testament. Il a donc fait une copie et a mis la fausse épée dans la vitrine.
En laissant la vraie.
Où ?
Leurs regards se croisèrent. Harry sentait que la réponse était suspendue dans les airs, invisible au-dessus de leur tête, à la fois proche et inaccessible. Pourquoi Dumbledore ne lui avait-il pas dit où elle se trouvait ? Ou bien le lui avait-il dit sans que Harry le comprenne sur le moment ?
« Réfléchis !» murmura Hermione. « Réfléchis ! Où aurait-il pu la cacher ? » ?»«
Pas à Poudlard !» répondit Harry en recommençant à faire les 100 pas.
« Quelque part, après Hollard ?»
suggéra Hermione. « La cabane hurlante, peut-être. Personne n'y va jamais. »«
Mais Rogue sait comment y entrer. Tu ne crois pas que ce serait un peu risqué ?»«
Dumbledore avait confiance en Rogue, » lui rappela Harry.
« Pas suffisamment pour lui révéler qu'il avait échangé les 2 épées, » fit remarquer Hermione.
« C'est vrai, tu as raison. » Harry se sentit encore plus joyeux à la pensée que Dumbledore ait pu avoir des réserves, si faibles soient-elles, sur la loyauté de Rogue. Dans ce cas, aurait-il caché l'épée loin de Pré-Hollard ?
Qu'est-ce que tu en penses, Ron ?
Ron ?
Harry regarda autour de lui. Pendant un instant d'incrédulité, il pensa que Ron était peut-être sorti de la tente, puis s'aperçut qu'il était simplement allongé dans l'ombre d'un des lits superposés, le visage immobile.
« Ah, tiens ! Vous vous êtes souvenu de mon existence ? »
dit-il.
« Quoi ?»
Ron laissa échapper un petit ricanement, les yeux fixés sur le lit supérieur, au-dessus de sa tête.
« Continuez tous les deux ! Je veux surtout pas jouer les rabat-joie !»
Perplexe, Harry se tourna vers Hermione, en quête d'un peu d'aide, mais elle hocha la tête apparemment aussi déconcertée que lui.
« C'est quoi le problème ?» demanda Harry. « Le problème ?» « Mais il n'y a pas de problème !»
répondit Ron, refusant toujours de regarder Harry.
« Selon toi, en tout cas !»
Ils entendirent plusieurs plocs sur la toile au-dessus de leur tête. Il avait commencé à pleuvoir.
« Toi, en revanche, on voit que tu en as un !» reprit Harry.
« Alors vas-y, raconte !»
Ron balança ses longues jambes hors du lit et se redressa en position assise. Il avait un air méchant qui ne lui ressemblait pas.
« D'accord, je vais raconter. Ne compte pas sur moi pour marcher de long en large dans cette tente en me demandant où peut bien se trouver un de ces fichus objets qu'il faudrait se procurer. Tu n'as qu'à l'ajouter à la liste de tout ce que tu ne sais pas. »
« Que je ne sais pas ?» répéta Harry. « Que je ne sais pas ?»
Ploc, ploc, ploc. La pluie tombait, plus fort et plus dru. Elle tambourinait autour d'eux sur la berge recouverte de feuilles mortes et sur l'eau de la rivière qui murmurait dans l'obscurité.
La crainte tempéra soudain l'enthousiasme de Harry. Ron était en train de dire exactement tout ce qu'il avait soupçonné de penser, tout ce qu'il avait appréhendé.
« Je m'amuse comme un petit fou ici, croyez-le bien !»
poursuivit Ron. « Avec mon bras estropié, rien à manger, à me geler les fesses toutes les nuits, j'avais simplement espéré qu'après avoir passé des semaines à courir partout, on aurait fini par obtenir un résultat. »«
Ron !»
dit Hermione, mais à voix si basse qu'il pouvait faire semblant de ne pas l'avoir entendu avec le martèlement de la pluie sur la tente.
« Je croyais que tu savais à quoi tu t'étais engagé, » lança Harry.
« Oui, moi aussi, je le croyais. »«
Alors qu'est-ce qui n'est pas à la hauteur de tes espérances ?» interrogea Harry. La colère venait à sa rescousse à présent.
« Tu pensais que nous allions descendre dans des hôtels 5 étoiles ? Que nous trouverions un Horcrux tous les 2 jours ? Tu croyais pouvoir revenir chez maman pour Noël ?»«
On croyait que tu savais ce que tu faisais !» s'exclama Ron en se levant.
Ses paroles transpercèrent Harry comme des lames brûlantes.
« On croyait que Dumbledore t'avait expliqué comment t'y prendre. On croyait que t'avais un véritable plan !»«
Ron !»
s'écria Hermione. Cette fois, sa voix était parfaitement audible, malgré le fracas de la pluie sur le toit de la tente, mais il ne lui prêtait toujours pas la moindre attention.
« Eh bien, désolé de t'avoir déçu, » répondit Harry, d'un ton très calme, malgré le sentiment de vide, d'insuffisance qu'il éprouvait.
« J'ai été franc avec toi, dès le début. Je t'ai répété tout ce que Dumbledore m'avait révélé, et au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous avons trouvé un Horcrux. »
« Ah ouais, ouais, ouais. Et on est aussi près de s'en débarrasser que de retrouver les autres. C'est-à-dire fistrement loin. »«
Enlève le médaillon, Ron !» le pressa Hermione, la voix étrangement aiguë. « S'il te plaît, enlève-le ! Tu ne parlerais pas comme ça si tu n'avais pas porté toute la journée. »«
Oh si, il dirait exactement la même chose !» assura Harry, qui ne voulait pas trouver d'excuses à Ron.
« Vous croyez que je n'ai pas remarqué vos messes basses, derrière mon dos ? Vous croyez que j'ignorais ce que vous aviez dans la tête tous les deux ?»
« Harry, nous n'étions pas... »«
Ne mens pas !» lui lança Ron. « Toi aussi, tu m'as avoué que tu étais déçu. Toi aussi, tu pensais qu'il en savait un peu plus que... »«
Je ne l'ai pas dit comme ça, Harry. Ce n'est pas ce que j'ai dit !»
s'écria-t-elle. La pluie continuait de marteler la tente. Des larmes ruisselaient sur le visage d'Hermione et l'excitation qu'ils avaient ressentie quelques minutes auparavant s'était évanouie, tel un bref feu d'artifice dont l'éclat se serait trop vite éteint, ne laissant autour d'eux que l'obscurité, l'humidité. Et le froid. L'épée de Gryffondor était cachée quelque part. Il ne savait pas où, et pour l'instant, il n'était plus que 3 adolescents dans une tente, avec pour seul résultat à leur actif le fait de ne pas être encore mort.
« Alors, pourquoi es-tu toujours ici ?» demanda Harry à Ron.
« J'en sais rien !» répliqua celui-ci.
« Mais rentre chez toi dans ce cas !» suggéra Harry.
« Ouais, ouais, c'est peut-être que je vais faire !»
Il s'avança en direction de Harry qui ne recula pas.
« Tu n'as donc pas entendu ce qu'ils ont dit au sujet de ma sœur ?»«
Mais bien sûr, tu t'en fiches, comme d'un pédra. On l'a seulement envoyé dans la forêt interdite. »« Harry Potter, celui qui a vu pire, ne se soucie pas de ce qui a pu lui arriver. Eh bien moi, figure-toi, je me soucie des araignées géantes et de tous ces trucs de dingue. »
Je disais seulement, elle était avec les autres. Ils étaient avec Hagrid.
« Ouais, ouais, c'est bien ça, tu t'en fiches, hein ? Et le reste de ma famille ? Les Weasley n'ont vraiment pas besoin qu'un autre de leurs enfants soit blessé, tu l'as entendu ? » ?»«
Eh oui, je... »«
Mais tu t'es pas inquiété de savoir ce que ça pouvait bien t'initier, hein ? » ?»«
Ron !» s'exclama Hermione, se glissant entre eux de force. « Je ne pense pas que ça veuille dire qu'il se soit passé quelque chose de nouveau, quelque chose que nous ignorons. Réfléchis, Ron ! Bill a eu le visage tailleté. » Plein de gens, à l'heure qu'il est, ont dû voir que George avait perdu une oreille, et tu es censé être sur ton lit de mort, écrasé par l'éclabouille. Je suis sûr que c'est la seule chose qu'il voulait dire.
Ah, tu es sûr ?
Bah, très bien.
Alors, je ne vais plus me faire de soucis pour eux. Tout va bien pour vous deux, hein. Vos parents sont en sécurité.
Mes parents sont morts !
Beugla Harry.
Et il pourrait arriver la même chose au mien !
Hurla Ron. Alors va-t'en ! Va-t'en ! Rugit Harry.
Va les retrouver ! Fais semblant d'avoir guéri de ton éclabouille ! Comme ça, maman pourra te préparer à manger !
Ron fit un mouvement brusque. Harry réagit, mais avant que l'un d'eux ait eu le temps de tirer sa baguette de sa poche, Hermione brandissait déjà la sienne.
« Protego !»
s'écria-t-elle, et un bouclier invisible se déploya. Harry et elle d'un côté, Ron de l'autre. Sous la force du sortilège, tous trois furent projetés en arrière de quelques pas, et Harry et Ron se regardèrent d'un air féroce de part et d'autre de la barrière transparente, comme si c'était la première fois qu'ils se voyaient distinctement. Harry ressentit à l'égard de Ron une haine corrosive. Quelque chose s'était cassé entre eux.
« Laisse leur crux !» dit Harry.
Ron enleva la chaîne de son cou en la passant par-dessus sa tête d'un geste brusque et jeta le médaillon sur un fauteuil proche. Puis il se tourna vers Hermione.
« Qu'est-ce que tu fais ?
Que veux-tu dire ?
Tu restes ou quoi ?»«
Je... »
Elle parut angoissée.
« Oui, oui, je reste.
Ron,
nous avions dit que nous partirions avec Harry. Nous avions dit que nous l'aiderions. »«
Compris. C'est lui que tu choisis. » »«
Ron. Ron, non, s'il te plaît. Reviens. Reviens !»
Son propre charme du bouclier l'empêcha de passer. Lorsqu'elle l'eut annulé, Ron avait déjà filé dans la nuit. Harry resta debout, immobile et silencieux, l'écoutant sangloter et appeler le nom de Ron parmi les arbres. Quelques minutes plus tard, elle revint dans la tente, ses cheveux ruisselants collés contre son visage.
« Il est parti. Il a transplané. »
Elle se jeta dans un fauteuil, se recroquevilla et fondit en larmes. Harry se sentait hébété. Il se pencha, prit leur crux et l'accrocha autour de son cou. Puis il arracha les couvertures du lit de Ron et les étala sur Hermione. Enfin, il grimpa dans son propre lit et fixa des yeux le toit sombre de la tente, écoutant la pluie qui tambourinait sur la toile.